Bonjour Louise Jalu.
Bonjour Mickaël.
Merci de nous accorder cet entretien par téléphone. Vous êtes compositrice, professeure au Conservatoire de Gennevilliers et bandonéoniste. Début mars, vous venez de faire paraître votre troisième album intitulé Jeux aux éditions Clart. Et aujourd'hui, votre disque est devenu Choc Classica. Dans Le Monde, Pierre Gervasoni parle de jeu de rôle, d'un jeu de loi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le titre de votre album Jeux?
Alors le titre de l'album pose pas mal de questions. Pour moi, c'est toutes les sonorités qu'on peut entendre à travers ce mot, de se mettre en jeu, de se jouer d'eux, comme un enfant en fait prendrait des objets et jouerait avec dans son propre univers. C'est un peu de cette manière que je l'ai entendu.
Et vous, vous jouez avec les différents thèmes qui ont fait la musicienne que vous êtes?
Oui, exactement. Alors, j'ai voulu reprendre en fait toutes les musiques un peu de mon patrimoine personnel, celles qui m'ont accompagnée durant mes études, mais aussi qui m'ont construite, évidemment. Alors, j'ai voulu jouer avec, voilà, m'en emparer et les recontextualiser dans un univers plus personnel.
Donc vous reprenez des pièces de Berg, Pugnani, Schumann, Ravel avec son Boléro, Bach avec la sonate pour violon en mi majeur, Schoenberg avec la Nuit transfigurée que vous transformez justement en Milonga transfigurée. Est-ce qu'il y a des compositrices qui ont marqué votre parcours?
Alors oui, bien sûr, c'est un sujet très important, encore plus aujourd'hui. Il y a une qui est aussi bandonéoniste, qu'on connaît très peu, qui s'appelle Paquita Bernardo et qui a joué ses propres compositions en 1920. Et c'est une femme qui a, malgré les a priori qu'on avait, a souhaité se montrer, se jouer sur scène ses propres compositions au bandonéon. Et elle est morte très jeune, à 25 ans, mais c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée.
Oui, parce qu'en plus, à l'époque, c'était le bandoneon était un instrument assez masculin, finalement.
Et oui, encore plus à son époque, donc c'était vraiment un exemple. Et je crois que si elle avait vécu plus longtemps, peut-être que aujourd'hui la scène serait totalement différente.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'entendre un morceau de votre dernier album. Donc, on va entendre Schumann et Wozzeck. Vous partagez l'album avec Mathias Lévy au violon, Carsten Horapfel à la guitare électrique, Grégoire Letouvé au clavier, Alexandre Perrault à la contrebasse et Ariel Tessier à la batterie. Un titre réalisé en collaboration avec Bernard Cavana qui arrange les morceaux avec vous. Nous venons d'entendre Schumann et Wozzeck, un titre du dernier disque Jeux de Louise Jalu. Ici, vous rendez hommage à Schumann avec la sonate en fa dièse mineur et à Alban Berg. Racontez-nous un petit peu l'histoire que vous entretenez avec ces deux compositeurs.
Alors, j'ai découvert très tôt Schumann par Paulini, justement, qui jouait merveilleusement et avec brio cette sonate. Et c'est par Paulini, en fait, que j'aimais beaucoup en tant qu'interprète, aussi parce qu'il était très engagé dans la création, que voilà, ce thème m'a marqué vraiment. Et puis Wozzeck, j'ai découvert avec Bernard Cavanagh lors de mes cours de composition au Conservatoire de Gennevilliers, et on a analysé avec tellement de passion cette œuvre que voilà, j'ai eu envie de les faire se côtoyer dans une même pièce.
Oui, parce que j'allais dire, c'est pas courant de jouer Schumann et Berg ensemble. Mais en tout cas, vous reprenez des thèmes et ensuite vous les. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Vous les décortiquez? Vous ajoutez des ornements? Comment ça se passe?
Alors, la plupart du temps, c'est vraiment de prendre un fragment, mais quelques secondes, hein, parfois, d'un thème et de se dire comment on peut le développer, comment on peut l'entendre d'une autre manière, dans quel univers. Et c'est vraiment un amusement. Enfin, c'est très ludique la manière dont les idées s'échappent, hein, même parfois nous échappent. Voilà, c'est une manière de s'amuser, hein, comme un enfant.
Comme un jeu, finalement.
Voilà, comme un jeu. C'est vraiment le titre.
C'est vrai que le bandoneon, c'est l'instrument typique du tango. Il y a toujours une référence au tango dans vos albums. Et pourtant, quand on écoute votre discographie, et en particulier cette dernière publication, il y a des influences de musique classique forcément, de musique française, de musique contemporaine, de rock, de jazz, de musique du monde. Finalement, est-ce que ça montre aussi que le bandoneon, c'est pas uniquement l'instrument du tango?
Alors j'espère, oui, que ça le prouve ou ça le montre le plus possible. Je souhaite réellement que cet album puisse être le plus émancipateur possible, de montrer que cet instrument a des capacités inouïes et inexploitées, et qu'il est possible de l'entendre d'une autre manière, dans un autre contexte, et de s'en emparer en fait pour une expression peut-être plus personnelle parfois.
Oui, c'est-à-dire de rappeler que le bandoneon, finalement, son répertoire de base, c'est le tango, mais ça s'arrête pas là et ça se poursuit avec d'autres ramifications. Et le tango, finalement, c'est le tronc de l'arbre et après, il y a toutes les branches qui en découlent.
C'est ça, finalement c'est un répertoire dans lequel il a été développé, mais il existe bien d'autres genres musicaux et d'autres manières aussi de l'écrire, de le faire sonner, qui aujourd'hui peut se prêter à de nouvelles créations.
Et on l'a rappelé, vous êtes professeur au conservatoire de Gennevilliers, et dans vos parutions, vous rendez hommage souvent à la ville. Il y a ce titre, À Gennevilliers toujours, qui fait écho à Gennevilliers dans votre premier album. Est-ce qu'on peut dire que Buenos Aires est à Piazzolla ce que Gennevilliers est à Louise Jalu?
Oui, pourquoi pas? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, je trouve ça très juste, effectivement. J'aime beaucoup cette ville. J'aime énormément cette ville. J'ai fait toute mon enfance.
Oui, elle vous a vu grandir.
Elle m'a fait grandir. Elle m'a vue aussi, bien sûr. Et j'aime beaucoup l'investissement aussi de la ville pour la culture. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour que ces instruments survivent, en fait, et puissent continuer à être découverts ou redécouverts par les nouvelles générations.
Oui, parce que le conservatoire de Gennevilliers, c'est la première classe de bandoneon en France, finalement. C'est là où tout
C'est
est
la
né.
première en Europe
En
et la
Europe,
plus
oui.
importante en France. Elle est presque unique, hein, encore aujourd'hui. Il y a quelques classes qui commencent à naître, mais elle reste la pionnière et la plus importante en France.
Cet hommage que vous rendez à la ville, ça montre finalement la continuité qu'il y a entre vos albums. Alors, est-ce qu'on peut dire que Je, c'est la suite de Francesita?
Alors oui, Je crois que c'est une, pour moi, c'est une suite, bien que effectivement l'univers paraisse être en rupture. Francesita, je suis partie plutôt sur des réarrangements, mais le thème était présent. Sur celui autour de Astor Piazzolla, j'ai souhaité m'inspirer de l'esprit de Astor Piazzolla, donc les thèmes étaient aussi présents, mais un peu moins. Je me permettais plus la revisitation. Et dans celui-ci, pour moi, c'est l'extrême, c'est l'aboutissement en fait de tout ce travail, c'est de créer de nouveaux objets qui, parfois, n'ont absolument rien à voir avec le fragment musical qui a été emprunté à l'origine.
Eh bien, je vous propose d'écouter À Gennevilliers toujours de Louise Jalut, Mathias Lévy au violon, Carsten Horapfel à la guitare électrique, Grégoire Letouvé au clavier, Alexandre Perrault à la contrebasse et Ariel Tessier à la batterie, un titre réalisé en collaboration avec Bernard Cavana qui arrange les morceaux avec vous.
Thank you.
C'était À Gennevilliers toujours, un titre du dernier disque de Louise Jalut. On a toujours des fonds sonores de ville, que ce soit dans votre Libertango ou ici dans ce dernier album, dans Pugnani Jalut. Pourquoi ce choix?
Oui, les emprunts aux sonorités urbaines, c'est un peu une marque de fabrique, c'est devenu une marque de fabrique. J'aime en fait donner à l'auditeur ce qu'il entend dans le quotidien, dans son quotidien, mais d'une autre manière, pour que peut-être il l'entende différemment ensuite dans son quotidien. C'est un peu une blague, voilà.
Ouais, parce que c'est des sons auxquels on fait pas attention quand on est dans la rue. Enfin, on les entend, mais on y prête pas vraiment attention, que ce soit l'aboiement d'un chien, les sirènes des ambulances qui passent. On fait moins attention à ces bruits-là.
Et on les entend tous les jours, alors qu'en fait, ils sont très intéressants. Là, dans le jeu, j'ai souhaité cette sirène de police d'une carte descendante, Missy Missy, qu'on entend presque tous les jours, soit associée à ce prélude et allegro de Fritz Kreisler, parce que ça commence par exactement le même intervalle. Voilà, alors c'est une petite boutade personnelle. Dans le disque autour de Astor Piazzolla, c'était une autre approche de ces sons urbains, parce qu'ils étaient associés à l'urgence qu'avait Astor Piazzolla à défendre sa musique, donc les sirènes militaires, les sirènes de police, l'environnement du chien qui aboie dans cette nuit sombre de Buenos Aires. Voilà, là, c'était une autre approche de ces sons, mais là j'ai voulu en jouer réellement.
Donc les bruits viennent compléter les musiques et viennent donner des compléments d'informations, des petites blagues et ce genre de choses. Et on a aussi dans vos albums différents brins de poésie. Ce qui vous tient à cœur, c'est aussi de partager l'enregistrement avec un chanteur ou une chanteuse. Et là, je pense notamment à Toi qui as besoin d'eau, qui est une reprise des Sabots d'Hélène de Georges Brassens. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette musique?
Oui, alors je voulais rendre hommage à Brassens. Bon, il fait partie pour moi du patrimoine de la chanson française, et ce disque se traite aussi un peu du patrimoine. Alors j'ai voulu lui rendre hommage à côté de Bach, à côté de Ravel. C'est cet homme si généreux, ce grand poète en fait, qui m'a marqué pendant ma jeunesse. Là, sa chanson est totalement réinventée, hein. Les harmonies sont toutes substituées, et c'est en fait un geste un peu de tendresse que j'ai eu envie de faire à Georges Brassens.
Oui, parce que finalement, dans cette musique Sabots d'Hélène, Brassens, il souligne que dans chaque femme réside la bonté, la joie de vivre et l'amour. Donc quelque part, c'est peut-être aussi un hommage aux femmes.
Peut-être bien, oui. Et en tout cas, il avait beaucoup d'affection pour cette Hélène.
On va l'entendre, Toi qui as besoin d'eau, qu'on pourrait presque traduire par Toi qui as besoin d'amour, extrait du dernier album de Louise Jalut intitulé Je, Mathias Lévy au violon, Karsten Horapfel à la guitare électrique, Grégoire Letouvet au clavier, Alexandre Perrault à la contrebasse et Ariel Tessier à la batterie. Les arrangements sont signés Louise Jalut et Bernard Cavana. Cali est à la voix.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton sang.
Besoin de ce qu'on appelle la poésie. Vous savez, moi, je me suis toujours défendu d'être poète. Moi, j'écris des chansons, non pas pour un poète.
Mais on vous le dit, poète.
Enfin, une espèce d'émotion, si vous voulez. Un art à côté de la vie. Moi, j'écris pour, parce que... Enfin, c'est une explication à posteriori, ça, parce que... Il a bien fallu que je me trouve des explications. J'écris parce que le monde dans lequel on est, ne me convenant pas tout à fait, je me crée un monde parallèle. Dans lequel je fais à peu près ce que je veux. Je crois que la plupart des gens qui écrivent, écrivent pour ça, pour créer autre chose que ce qui existe.
Toi qui as besoin d'eau, extrait du dernier album de Louise Jalut, intitulé « Je ». Alors, j'ai pas l'habitude de parler de la jaquette des disques, mais là, je vais quand même faire une exception. Vous utilisez toujours le même visuel avec le soufflet du bandoneon qui change d'apparence. En 2018, on voyait des personnages faisant des travaux. En 2021, c'est Astor Piazzolla qui figurait sur le soufflet. Et cette fois-ci, ce soufflet porte plusieurs couleurs. Il y a du bleu, du rouge, du vert, du jaune. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez fait ce choix ?
Pour moi, c'était de montrer justement la diversité. Des possibilités d'emprunt à des genres musicaux très différents pour le bandoneon, de le mettre dans tous ces contextes. Et donc toutes ces couleurs, qui sont celles des Jeux Olympiques d'ailleurs, c'est aussi pour moi un peu mes Jeux en fait. Mon challenge à moi, mes Jeux Olympiques à moi. Et c'est de s'emparer un peu de tous ces genres musicaux différents, tous ces codes et de s'en jouer.
D'accord, donc c'est vos Jeux Olympiques musicaux alors.
C'est ça.
Alors dans cette interview, vous avez carte blanche pour présenter des pièces de votre choix. La première, c'est la version de la sonate numéro 1 en fa dièse mineur, opus 11 de Robert Schumann, par Maurizio Pollini. Je vous propose d'entendre le premier mouvement, c'est chez Deutsche Grammophon.
Thank you.
Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonate numéro 1 en fa dièse mineur opus 11 de Robert Schumann par Maurizio Pollini. Et cette pièce a été une source d'inspiration pour votre Schumann Wozzeck.
Oui, tout à fait. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai écouté Pollini très jeune. Il m'a marqué pour ses interprétations époustouflantes. Et puis l'homme aussi. L'homme nous a quittés il y a peu. Et c'était un homme très engagé dans la création. Il avait de cesse de répéter que les interprètes se devaient de s'engager dans la création. Mmh. Et de défendre la création en tant qu'interprète. Donc, puis Schumann, que j'adore, ce compositeur merveilleux, la quintessence de la musique romantique, j'aime bien dire ça. Et là, on a le lyrisme, on a la déclamation. Voilà, c'est l'amour qu'il avait aussi pour Clara, puisque cette pièce lui est dédiée. Mmh. Voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée.
On va voir votre deuxième choix, qui s'est porté sur Neil Young. Chanteur et guitariste rock, voici Guitare Solo numéro 2, un label Vapor Records. C'était Guitare Solo numéro 2 de Neil Young. Vous vous inspirez de ces phrases à la guitare électrique, Louise Jalu ?
Oui, alors j'aime beaucoup ces improvisations, surtout dans ce film de Jarmusch, Deadman. C'est un film qui date de 1996. J'aime beaucoup la façon qu'il a de sculpter le temps, alors qu'en fait, il s'agit d'une seule et même harmonie. Il y a très peu de choses, mmh. très peu d'événements, mais qui sont toujours au bon moment et qui sont toujours en rebondissement. Voilà, ça m'a beaucoup inspirée.
Et donc vous reprenez alors les procédés qu'il utilise ?
Alors, j'essaye, par exemple, dans la Milonga Blues, j'essaye effectivement de m'inspirer de cet art, de l'événement qui est rare, mais qui permet à la musique de toujours rebondir avec peu de choses.
Votre dernier choix s'est porté sur celui qui arrange les œuvres de votre disque, enfin, vous arrangez les œuvres ensemble, c'est Bernard Cavana. Nous écoutons le Kyrie de Messe Un jour ordinaire. C'est avec les Métaboles, Multilatéral et Léo Varinsky, un album paru chez Nomad Music en 2023.
Thank you. je voulais vous demander aussi, c'est si c'est possible, si vous faites songe, c'est si vous avez des adresses de vestiaire, parce que j'ai grossi. Ça serait pas tellement les vêtements, ça serait une paire de chaussures qui m'intéresse. Si vous faites songe.
Nous écoutions le Kyrie de Messe un jour ordinaire de Bernard Cavana avec les métaboles multilatérales et Léo Varinsky. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur cette œuvre ?
Oui, je l'ai écoutée quand j'étais en train de travailler avec Bernard sur l'écriture, sur l'analyse, et elle m'a marquée parce que c'était une œuvre phare de Bernard Cavana. Et puis elle s'inscrit totalement en fait dans notre siècle. Elle date de 94 et elle est un peu prophétique parce qu'elle montre en fait que l'humanité est incapable de gérer les enjeux qui lui feraient éviter peut-être une extinction, une nouvelle extinction terrestre. Mmh. Et voilà, j'aime beaucoup la manière dont il nous le fait entendre musicalement, c'est absolument incroyable. Et cette opposition aussi à la parole liturgique, parce que c'est une fausse messe en fait, et la parole de cette toxicomane à la dérive qui est tirée d'un documentaire de Jean-Michel Carré, Galère de femme. Voilà, c'est l'opposition en fait de ces mondes voilà, qui est très touchante.
Ces trois œuvres qu'on a écoutées ensemble vous ont inspiré pour faire ce dernier album que vous venez de sortir en début mars, qui s'appelle « Jeu » aux éditions Clart. Merci Louise Jalut d'avoir été au micro d'Accent 4.
Merci Mickaël.
Le 30 mars, vous serez à Marseille, au Babel Musique, le 27 avril à Immenau en Allemagne, le 3 mai à Mannheim et le 6 juin à Paris. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre artiste sur le site www.louisejalut.com et sur les réseaux sociaux. À bientôt Louise.
À bientôt.
Vous êtes sur Accent 4, l'instant classique.